60 minutes business. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, bienvenue dans 60 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée. Nous avons trouvé Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
On va décrypter l'actualité économique évidemment avec nos reporters, nos invités. Au sommaire de ce vendredi 25 novembre, Elisabeth Borne reçue cet après-midi à Berlin par le chancelier Olaf Scholz, front uni de l'Allemagne et de la France face à l'Inflation Reduction Act américain qui subventionne massivement les entreprises aux États-Unis. On va en parler dans un instant avec Thomas Sasportas. Des purges dans la tech, des milliers de salariés qui sont licenciés, la production d'iPhone en Chine qui est menacée par la politique zéro Covid et les mouvements sociaux chez Amazon. Les problèmes se multiplient et un nouveau cycle s'ouvre probablement chez les GAFAM. On va en parler avec Anthony Morel et avec Jean-Marc, bien sûr, dans le Focus. Et puis, en pleine période de Black Friday, on va plutôt nous pencher aujourd'hui sur la réparation des objets électroniques avec Revive, plateforme qui vous permet d'identifier, de choisir un réparateur, de faire réparer votre tablette. Son cofondateur, Vianney Bernard, sera avec nous dans une dizaine de minutes. Et puis, à 12h30, BFM avec vous. Lorraine Gouvon, on parle de quoi aujourd'hui?
On va parler de comment communiquer et comment gérer les erreurs de communication quand vous êtes dirigeant, dirigeante. Comment, par exemple, arriver à communiquer autour de son salaire sans choquer. On prendra évidemment le cas de Patrick Pouyanné, mais aussi celui de Kylian Mbappé. On fait bosser un expert pour répondre à vos questions.
Et ce sera à 12h30. Merci, Lorraine. On vous retrouve tout à l'heure. Allez, tout de suite, c'est le journal. Et on revient sur cette rencontre cet après-midi à Berlin. Elisabeth Borne qui est reçue par le chancelier Olaf Scholz, Thomas Sasportas. La visite de la première ministre qui conclut une semaine de réunions quotidiennes de travail entre les deux gouvernements. Bon, il y a des points de désaccord, on le sait, mais ils se retrouvent sur un point, c'est l'Inflation Reduction Act américain, Thomas Sasportas.
Oui, rien de tel qu'un ennemi commun pour resserrer les rangs.
Ben
on va résumer la situation comme ça. Et cet ennemi commun s'appelle l'Inflation Reduction Act, ce fameux grand plan américain de subvention à 369 milliards de dollars qui fait trembler l'industrie française, allemande et européenne. Sur ce dossier, la menace est telle que les deux pays affichent une entente sans faille et promettent de répondre ensemble. Les réunions de travail qui se sont tenues toute cette semaine entre les différents ministres des deux pays ont été l'occasion à chaque fois d'exprimer publiquement un front uni et leur détermination. Par exemple, Robert Habeck, le ministre allemand de l'économie, déclarait à Bercy il y a quelques jours que la France et l'Allemagne ne pouvaient pas rester assis et attendre. Nous défendrons nos économies par tous les moyens, a ajouté dans la foulée son homologue français Bruno Le Maire. Et on comprend que les deux pays se mobilisent parce qu'ils voient déjà très concrètement la menace américaine prendre forme. L'Allemagne pourrait perdre par exemple la nouvelle usine de batterie du géant suédois Northvolt au profit donc des États-Unis. La France ne cache pas qu'elle l'a échappé belle pour la prochaine usine de semi-conducteurs de STMicroelectronics qui avait été annoncée, vous vous en souvenez, en fanfare au dernier Choose France, mais ça c'était juste avant la mise en place des subventions américaines. Les deux pays appellent donc désormais à une réponse et une riposte forte. L'Allemagne évoque des subventions, dit qu'il n'y a pas de tabou sur ce sujet et une politique industrielle européenne drastiquement accélérée. La France, quant à elle, parle d'un Buy European Act et Emmanuel Macron pourra en parler de vive voix au principal intéressé, Joe Biden, dès la semaine prochaine, lors de sa visite d'État à Washington.
Merci beaucoup, Thomas. Un Buy European Act, est-ce qu'on peut, on peut rivaliser avec les Américains, Jean-Marc?
Alors, d'abord, je ne sais pas si on peut et je ne sais pas si on doit. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'on peut? Effectivement, il y a encore beaucoup de désaccords et la rencontre est assez symbolique après un automne qui a été quand même assez chahuté sur le plan des relations franco-allemandes. Donc là, on se retrouve et comme l'a dit Thomas, c'est bien d'avoir un ennemi commun. Ça permet effectivement de dire du mal de quelqu'un. Sur un projet d'ailleurs américain qui est encore très flou et qui ne fait pas l'unanimité au sein du Parti démocrate. Il y a un certain nombre de gens au sein du Parti démocrate qui restent favorables au respect de certaines règles de libre-échange et qui pointent du doigt le fait que tout ça va se heurter à l'OMC et que les États-Unis n'ont pas l'intérêt à fragiliser davantage l'OMC. Quant sur le... Est-ce qu'on doit... Je reste toujours très réservé sur ces tentations protectionnistes. C'est quand même notre président de la République, le 26 octobre dernier, était employé pour la première fois depuis très longtemps et assumé depuis très longtemps le mot protectionnisme. Il a dit certes au niveau européen, mais c'est une spirale qui est une spirale assez dangereuse de croire ça, que de croire qu'on résoudra ces problèmes par le protectionnisme. Dans une zone qui reste quand même une des zones les plus exportatrices du monde, donc chercher à mettre en place du protectionnisme, ça va contre nos intérêts immédiats. Et je rappelle qu'il y a d'autres sujets. Je me suis surpris en avance pour moi le rapport Gallois qui disait parmi les avantages incontestables de la France, il y a le coût de l'énergie, C'était il y a 10 ans. Mmh. En 10 ans, c'est pas les Américains qui ont détruit notre coût de l'énergie, c'est pas les Américains et le libre-échange qui ont fait en sorte que nos centrales nucléaires ne fonctionnent pas. Mmh. Et donc, avant de faire du protectionnisme, il faudrait peut-être faire marcher ce qui devrait bien fonctionner.
Voilà, c'est dit. Merci Thomas Sasportas. Dans ce journal également, le produit intérieur brut allemand qui a plus progressé au troisième trimestre qu'initialement annoncé, malgré la crise énergétique et l'inflation qui pèse sur la première économie européenne. La croissance allemande s'est établie à 0,4% entre juillet et septembre. C'était plutôt 0,3% dans les premières estimations. C'est un chiffre intéressant, Jean-Marc, surtout si on l'ajoute au prix à la production qui ont baissé aussi en Allemagne. On a eu le chiffre en début de semaine. Est-ce que ce sont des signes annonciateurs d'une année 2023 peut-être meilleure que prévu?
Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de signaux qui sont en train de passer au vert. Et vous savez, je me suis toujours permis de dire que l'année 2023 ne sera pas une année médiocre et moyenne. Ou bien il y aura une profonde récession, parce que la crise énergétique s'amplifie, parce que le durcissement de la politique russe conduit à effectivement davantage encore de perturbations sur l'économie mondiale. Mmh. Ou bien au contraire, on aura tourné cette page-là, on aura trouvé un modus vivendi, y compris sur le plan énergétique, et à ce moment-là, on peut espérer avoir une croissance au-delà des 0,5% qu'on nous annonce. Et donc, l'Allemagne, qui est quand même pas une économie banale, est en train de nous montrer la voie.
Oui, c'est plutôt positif, effectivement, les signes.
Oui, c'est plutôt rassurant.
Cette semaine, c'est rassurant, exactement. Et puis, en bref, la production d'iPhone d'Apple dans l'usine Foxconn de Zhangzhou, en Chine, qui pourrait chuter d'au moins 30% au mois de novembre. Conséquence directe de cette politique zéro Covid menée par le pays dont on vous parle tous les jours. Un confinement sanitaire de 6 millions de personnes à pareil débuté aujourd'hui dans la région. Ça nous amène à notre focus. On va parler d'Amazon, un autre GAFAM avec vous, Anthony Morel. Bonjour.
Bonjour.
Menace sociale en cette période de Black Friday, alors qu'Amazon s'apprenne à connaître sa plus grosse journée de l'année. C'est sa journée, hein.
Ah oui.
Le Black Friday, des milliers de salariés du géant américain devraient se mettre en grève et manifester pour réclamer de meilleures conditions de travail, Anthony.
Oui, il y a des débrayages qui sont prévus dans une quarantaine de pays, dont la France, mais aussi aux États-Unis évidemment. Alors à la fois dans les centres logistiques, hein, les gigantesques entrepôts d'Amazon, dans les supermarchés Whole Foods qui appartiennent à Amazon aux États-Unis, oui. Ou même devant le domicile de Jeff Bezos. Le mouvement s'appelle Make Amazon Pay. Il a été lancé à l'initiative de syndicats et d'ONG et il réclame des meilleurs salaires, l'arrêt de pratiques jugées illégales et dangereuses. Alors c'est vrai que ça fait longtemps, hein, que les pratiques et les conditions de travail dans les entrepôts d'Amazon sont pointées du doigt, notamment la recherche de productivité à tout prix, le manque de pause qui entraînerait des accidents. C'est vrai qu'il y a des chiffres alors qui sont fournis par les syndicats américains, mais selon lesquels la moitié des accidents qui surviennent dans des entrepôts aux États-Unis, eh bien c'est chez Amazon que ça se passe. Cette grève, elle se fait aussi, alors ça c'est intéressant, contre l'usage à outrance de la technologie à des fins de surveillance. Et c'est vrai qu'Amazon s'est fait un peu une spécialité d'utiliser par exemple l'intelligence artificielle pour surveiller, traquer de manière extrêmement fine les performances de chaque salariés, parfois jusqu'à l'absurde. Au Japon, par exemple, les livreurs Amazon se sont syndiqués pour lutter contre les trajets qui leur sont imposés par des algorithmes, mais des trajets complètement débiles. C'est-à-dire que vraiment, l'algorithme leur dit il faut passer par là, sauf qu'en fait, c'est une route qui est fermée, ou ça passe pas à travers une rivière, ou ça passe pas pour le camion. Et donc, c'est l'intelligence artificielle qui les oblige. Donc, ils ont dit, non, en fait, c'est pas normal de nous demander ça. Le timing, quand même, de ce mouvement social, il ne doit rien au hasard. Hein. Black Friday, vous le disiez, c'est la journée d'Amazon. On estime que l'an dernier, la seule journée du Black Friday a généré 63 milliards de dollars de ventes dans le monde. Alors, c'est tous sites confondus, mais Amazon étant le numéro un mondial du e-commerce, évidemment, il se taille la part du lion. Et ce mouvement social, il faut aussi dire qu'il intervient un peu au pire moment pour Amazon, qui est, comme tous les GAFA, mais peut-être encore plus que tous les autres GAFA, en grande difficulté. Et d'ailleurs, il y a un chiffre, enfin pas seulement symbolique, j'allais dire symbolique, non, un chiffre énorme. C'est la première entreprise de l'histoire à avoir perdu plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation par rapport à son plus haut l'an dernier.
Voilà Amazon, effectivement, Anthony, qui connaît ce mouvement social, mais cela s'ajoute aux purges dans les autres GAFA. Jean-Marc, ces milliers de salariés qui sont licenciés depuis plusieurs semaines, on en a parlé aussi avec vous, Anthony. La production d'iPhone par ailleurs, qui souffre de la politique zéro Covid. Bref, on a l'impression que c'est un peu la tempête là, du côté des GAFAM, Jean-Marc. Comment on peut analyser ça ?
Oui, les GAFAM et les nouvelles technologies sont en train de rentrer dans une nouvelle phase. C'est assez naturel. Hein. C'est ce que décrivait très bien Schumpeter dans son discours sur la destruction créatrice. Là, il y a la phase des entrepreneurs, la phase des gens qui sont habités, la phase des gens qui sont... la phase un peu irénique, où on découvre le monde, on va tout changer. Mmh. Ensuite, il y a la phase des imitateurs, des gens qui rentrent sur le marché. Et donc, les imitateurs, la concurrence va pousser effectivement forcément l'entrepreneur à se remettre en question. Oui. Et il faut passer à la phase des gestionnaires. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans leur passage du côté des gestionnaires, des gens comme Elon Musk ou Jeff Bezos ont une façon assez brutale de se comporter. C'est-à-dire que le 20e siècle faisait des gestionnaires qui essayaient de préserver les apparences. Là, eux, ils sont vraiment
cacheurs. Elon Musk ne sait pas du tout préserver les apparences.
Ils font pas semblant. On retrouve un peu un état d'esprit des barons de l'industrie du 19e siècle.
Et donc,
on pouvait penser qu'effectivement, les relations sociales s'étaient apaisées, que le discours sur la lutte de classe était quelque chose qui était totalement obsolète. Et là, ils sont en train de recréer, de façon assez militante, cette atmosphère, cet état d'esprit, ce combat au nom d'une porte d'efficacité liée à la phase gestionnaire. Il va falloir qu'ils s'adaptent.
On le verra, hein, mais les salariés s'adaptent aussi. C'est cyclique, Anthony.
Ah oui, absolument, absolument. Mais c'est vrai que ce que disait Jean-Marc, là, enfin, on le voit aussi chez Twitter. Enfin, là, Elon Musk, sa gestion, elle est assez, assez terrible. Hein, on l'a vu. C'est, je vous embauche, je vous vire. Bon, finalement, dont j'ai besoin de vous, vous revenez. Enfin, il y a des trucs quand même complètement fous. Il faudra voir aussi les conséquences que ça a aussi sur l'innovation. Ça va être très intéressant parce que les licenciements, notamment chez Amazon, il y a 10 000 personnes qui vont devoir partir. Elles se font notamment dans les sections recherche et développement. Ils sont en train de se dire, par exemple, Alexa, les petites enceintes intelligentes, c'est bien gentil. On avait des grosses ambitions, sauf que en fait, personne ne s'en sert. Donc ça, on va couper les budgets.
Grosse période de remise en question, en tout cas. Merci beaucoup, Anthony Morel. Allez, tout de suite, l'édito de Jean-Marc.
BFM Business, 60 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
Jean-Marc, le Sénat a adopté hier en première lecture le volet recettes du projet de budget pour 2023. Les collectivités sont assez bichonnées, finalement.
Exactement, oui. Alors, personne ne regarde ça de très près parce que tout le monde se dit tout ça, ça va se terminer par un coup de 49-3. Donc, il n'y a pas de véritable message politique à retenir de cette discussion budgétaire. Et je ne suis pas d'accord. Parce que le Sénat, effectivement, traditionnellement, est vécu comme étant l'assemblée des territoires, l'assemblée des collectivités locales. C'est aussi une sorte de musée, de conservatoire de la République, puisqu'il y a encore des partis qui ont été créés sous la Troisième République qui sont représentés au Sénat. Il y a encore des institutions qui se réfèrent à la période héroïque des années 30. Mais quand on regarde sur le fond les décisions qui sont prises, effectivement, le Sénat, qui se veut le gardien de l'orthodoxie budgétaire, favorise assez systématiquement les collectivités locales. Et là, il y a deux décisions qui m'ont paru assez graves. La première, c'est de remettre en cause le calendrier d'annulation de la CVAE en disant que c'est une des ressources des collectivités locales et qu'il faut garantir aux collectivités locales que, quoi qu'il arrive, leurs ressources ne seront pas remises en cause. Et la deuxième, c'est un certain nombre de subventions pour compenser le coût d'augmentation, l'augmentation du coût de l'énergie. Et donc, il y a cette idée que finalement, les collectivités locales doivent être protégées des éléments de contexte qui font que, effectivement, le pays va devoir faire des efforts, le pays va devoir faire des économies, le pays va devoir remettre en cause ses dépenses publiques. Le FMI réclame 4% du PIB en baisse de dépenses publiques. Mmh. Et on a l'impression que pour le Sénat, c'est pas les collectivités locales qui doivent faire le moindre effort en la matière.
Alors qu'elles pourraient agir,
parce qu'on voit bien que la part des collectivités locales a considérablement augmenté dans le PIB et pas uniquement du fait de la décentralisation, et que si on revient même au Sénat cette année, probablement que les effectifs des collectivités locales vont dépasser les 2 millions. 2 millions de personnes avec des conditions dans lesquelles on voit une loi qui a été votée pour obliger les gens à travailler 35 heures parce que beaucoup de collectivités locales faisaient travailler leurs salariés, leurs employés moins de 35 heures, et on voit le psychodrame qui est en train de se nouer autour de la ville de Paris dans les rapports entre Madame Hidalgo et Gabriel Attal. Et donc, je pense qu'il y a de l'ordre à remettre sur ce dossier et que le Sénat ferait bien de ne plus être le protecteur systématique des collectivités locales, mais véritablement un lieu de réflexion sur l'avenir des collectivités locales.
Le message est passé, Jean-Marc. Allez, tout de suite, on va faire un point à Euronext. Antoine, CAC 40, pas très décidé en cette mi-journée.
Ben non, on était en baisse hier encore une demi-heure, et puis là, finalement, on grimpe de 0,2%, 6720 points. On est quasiment au plus haut de la séance. C'est vous dire si le marché est quand même assez peu décidé, mais enfin, pas de séance hier du côté de Wall Street, donc pas d'impulsion. Il n'y aura qu'une demi-séance cet après-midi sur les marchés américains, donc pas de quoi prendre des décisions fortes de la part des investisseurs. L'Eurostock 50 grimpe de 0,2% et plus 0,16 pour le DAX à Francfort. À noter quand même qu'il y a quelques mouvements sur les taux d'intérêt qui sont intéressants. Petit redressement des échéances 10 ans après un mouvement de consolidation qui dure depuis plusieurs jours. On est à 1,92 pour la dette allemande, 2,36 pour la dette française, 3,71 pour la dette américaine. Tout ça nous donne un équilibre des forces qui, pour l'instant, est plutôt en faveur de l'euro-dollar qui remonte à 1,04 après un petit coup de faiblesse ce matin. On est à 1,0405. Et du côté des valeurs les plus actives, ça se redresse aussi sur les prix du pétrole à 86,55 pour le baril de Brent de mer du Nord et 79,50 pour le brut léger américain. Ça permet à Total de signer la plus forte hausse du CAC 40 à plus 1,3%, 58,57. On a ArcelorMittal qui prend à 26 à 25,67. Vivendi plus 1,06 à 8,76. Donc pas vraiment de préférence sectorielle pour les investisseurs. Il y a un petit peu de tout en hausse. À la baisse, on retrouve des valeurs, alors on va dire, à tendance plutôt défensive. Unibail Rodamco Westfield moins 0,9% à 52,87. Eurofin Scientifique moins 0,6 à 68,18. Et Thales moins 0,4 à 121,70. Le CAC donc en timide hausse, plus 0,2%, mais au-dessus des 6700 points. Toujours au plus haut depuis mars dernier, 6720 points, très exactement.
Et du côté des cryptos, le XRP, la star du jour, Antoine.
Absolument, et c'est peut-être le seul mouvement de marché vraiment d'importance à signaler, parce que c'est vrai que du côté des autres grandes cryptos, on a tendance à stagner, comme le Bitcoin qui cote du côté des 16 500 $, l'Ethereum, l'Ether autour des 1 200, mais l'XRP, la crypto-monnaie du réseau Ripple, est en forte hausse, on est au-delà des 40 cents, c'est un niveau qu'on n'avait pas vu depuis quelques mois.
Merci beaucoup Antoine Larrigaudry. Allez, dans un instant, c'est temps de Black Friday. Nous, on a plutôt décidé de vous parler de réparation d'objets électroniques plutôt que d'achat. Les téléphones, les tablettes, les consoles, comment on les répare? Aujourd'hui, nous recevons Revive, une plateforme spécialisée dans ce domaine, avec Vianney Bernard, son cofondateur. À tout de suite.
60 minutes business. L'invité.
Oui, c'est temps de Black Friday. Alors, il faut choisir. Est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on répare ce qu'on a déjà? Nous, aujourd'hui, on est plutôt Green Friday. Avec vous, Vianney Bernard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur de Revive, une plateforme qui prend soin particulièrement de nos appareils électroniques, les téléphones, les tablettes, les consoles. Il faut savoir qu'un Français, seul un Français sur quatre, répare ses produits électroniques une fois cassés ou en panne. Dites-nous tout d'abord comment fonctionne Revive.
Alors, donc, tout simplement, vous allez sur revive.fr. Et puis vous allez pouvoir donc identifier votre produit, vous allez identifier du coup par la suite votre panne sur le produit électronique, et vous l'avez bien dit, donc c'est tout ce qui est smartphone, ordinateur, console de jeu et écouteurs. Mmh. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller identifier donc les meilleurs réparateurs qui vont pouvoir résoudre votre problème en vous proposant du coup un prêt de vie immédiat. Et derrière, on va aller un petit peu plus loin, c'est qu'on va vous proposer donc trois choix logistiques. Donc soit vous déplacez chez le réparateur, soit vous envoyez votre produit directement par un label prépayé, ou alors vous avez le choix de commander donc un coursier eco-friendly qui va pouvoir récupérer votre produit, l'amener chez le réparateur et vous le ramener dans les mains réparé.
Alors comment vous les choisissez, vos réparateurs, justement?
Alors c'est justement ce métier de sélectionner le bon réparateur. Il y a à peu près donc entre 4000 et 5000 réparateurs sur le marché pour tout ce qui est produits électroniques. Et il existe donc des réparateurs agréés, constructeurs, des réparateurs donc indépendants. Et ce qu'on va faire, c'est aller sélectionner donc les meilleurs sur le marché.
Agréés et indépendants. Vous avez les deux.
Exactement, oui. On a les deux. Et alors comment on fait ça? Donc on va avoir un réparateur qui va arriver donc, directement sur la plateforme, et on va lui faire passer donc un audit qui va durer en général entre 2 et 3 semaines. Et derrière, en fait, on va aller vérifier certaines normes, donc des normes de sécurité, des normes électrostatiques, le sourcing des pièces détachées et surtout, par exemple, la formation des techniciens. Et donc on va lui faire signer donc une charte de qualité qui va s'engager donc à respecter sur tout au long du terme, et on va se permettre par la suite de noter les réparateurs en fonction de leur qualité de service. C'est ça qui va être important, parce qu'ils vont avoir une note sur 100. Et sur cette note, donc elle va avoir tendance à évoluer au fur et à mesure du temps, on va proposer donc un réparateur plutôt qu'un autre pour que le consommateur ait toujours la meilleure qualité.
Jean-Marc.
Oui, par rapport à ce réseau de réparateurs, d'abord il n'est pas uniquement dans la région parisienne, où il est un peu partout dans toute la France, où votre champ géographique c'est toute la France.
Exactement.
Est-ce qu'il y a des gens que vous sortez du réseau? Est-ce que les gens vous viennent vers vous? Est-ce que vous avez des chasseurs de tête, entre guillemets, pour ces réparateurs? Et dernière question liée à ça, est-ce que vous avez un service après-vente? C'est-à-dire, est-ce que ça, si ça s'est mal passé, vous assumez les conséquences de cette erreur, et est-ce que vous prenez en charge l'orientation vers un autre réparateur?
Alors effectivement, c'est de bonnes questions. Pour répondre à la première, en fait, donc le réparateur est noté. Et en fonction donc de chaque réparation qu'il va effectuer, donc on va se renseigner et puis on va lui attribuer une note. Alors pour l'instant, je peux pas vous dire exactement la note qui va lui permettre d'être accepté comme un bon réparateur. Mais au bout d'un moment, en fait, si la note descend trop basse, eh bien on va le sortir du, du réseau. On veut toujours laisser place à la meilleure qualité de service. Et pour la partie SAV, effectivement, en fait, nous sommes comme le tiers de confiance, en fait, pour nous essayons d'être le tiers de confiance, en tout cas pour le consommateur. Et l'idée, c'est de prendre en considération que si jamais il y a un souci avec un réparateur, eh bien c'est de notre faute. Donc on va gérer la panne, on va gérer en fait le souci, et pour toujours trouver donc une solution pour que le consommateur soit satisfait et qu'il fasse confiance en fait à ce marché qui est extrêmement opaque, qui est le marché de la réparation, et qu'on essaye de rendre transparent.
Justement, vous arrivez à quel taux de satisfaction aujourd'hui ?
Alors, taux de satisfaction donc pour la réparation en tout cas des produits aujourd'hui, donc sur notre algorithme, on a un taux donc de réussite qui est aux alentours des 96%.
Ouais.
Le taux de satisfaction, donc nous on peut le calculer de différentes manières. Donc on a un calculateur interne sur la plateforme et par exemple aussi sur la notation Google. Pour l'instant, on a une majorité, on va dire 98% des consommateurs qui sont passés sur Revive sont satisfaits et recommanderaient du coup à une autre personne de leur entourage.
Vous l'avez dit tout à l'heure, vous en avez parlé des pièces détachées, c'est un des grands défis de la réparation sur tous les objets électroniques. Vous, comment vous fonctionnez ? Est-ce que vous connaissez des pénuries ? Est-ce que vous allez jusqu'à utiliser des pièces détachées reconditionnées ? Comment vous vous fournissez ?
Alors, ce n'est pas nous qui nous fournissons, parce que nous, on ne répare pas en fait en propre.
C'est chaque réparateur qui gère son stock de pièces détachées ?
Donc, il va aller gérer donc, son propre stock, et libre à lui donc, de trouver donc, les meilleures pièces de la meilleure qualité. Nous, ce qu'on va faire derrière, c'est justement vérifier donc, le sourcing et vérifier que la pièce qu'il va proposer au consommateur, eh bien, ce sera toujours la même, et la meilleure.
Et ça rentre ensuite dans sa notation générale, j'imagine. Exactement. C'est un des critères.
C'est un des critères de sélection,
Non, je vous en prie. Est-ce que vous avez fait une typologie de vos clients ? Est-ce que ce sont des gens qui sont des écologistes militants qui veulent préserver, effectivement, au travers de la réparation, l'équilibre naturel ? Est-ce que ce sont des gens qui sont acculés pour des raisons de finances ? Ou est-ce que, finalement, c'est un peu le hasard qui les guide vers vous ?
Alors, c'est une bonne question. Effectivement, en fait, on va avoir tout type de CSP qui viennent pour réparer donc sur Revive. En général, ça peut être de la personne de 18 ans jusqu'à 65 ans. Mais en fait, ce qui est drôle et ce qu'on a vu avec mon associé Mathieu, c'est que globalement, tous les consommateurs qui viennent sur Revive sont surpris du prix de la réparation. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a des biais cognitifs qui existent sur ce marché. Et en l'occurrence, pour beaucoup, le prix d'une réparation va être supérieur au prix d'un produit neuf.
Parce que quand c'est fait par le constructeur lui-même, souvent, c'est très cher. Donc, ça rentre un peu dans l'esprit des gens. Ce n'est pas votre cas.
Alors non, justement, quand on regarde en fait les chiffres, donc les chiffres, par exemple, de l'ADEME, l'Agence de la Transition écologique, eh bien, on se rend compte que, globalement, le prix d'une réparation, en moyenne, pour un smartphone, par exemple, eh bien, c'est aux alentours des 27% du prix du produit neuf. Donc, en fait, acheter un produit reconditionné, par exemple, est moins cher que d'acheter un produit neuf. Et on va aller plus loin, réparer est moins cher que d'acheter un produit reconditionné.
Je voulais connaître un peu la part que vous aviez de réparation entre les produits encore sous garantie et les produits qui ne le sont plus. Parce que, après, dans le rapport avec la marque, avec le constructeur, ça change les choses.
Effectivement. Alors, la part entre les deux, on va avoir du mal aujourd'hui à le calculer. On est tout récent sur le marché. On vient de se lancer en février 2022.
Ouais.
Donc, on est en train d'étudier tous les chiffres. Pour le moment, on a plus de hors-garantie, effectivement, que de garantie. Et aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler activement, parce qu'on a envie que les consommateurs qui ont toujours leurs produits donc sous garantie puissent utiliser Revive de manière très fluide. Mais on prend toujours en considération, aujourd'hui, un consommateur qui va venir, qui a son produit sous garantie, il va pouvoir le faire réparer sur Revive. C'est-à-dire que le réparateur, lui, il a son back-office et en fait, il va pouvoir avoir directement le numéro de série du consommateur et vérifier si son produit est sous garantie ou non. S'il est sous garantie, eh bien, il y a un devis rectificatif qui se fait. Le consommateur ne paye absolument rien.
C'est responsable et c'est moins cher, c'est Revive. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Vianney Bernard, cofondateur donc de Revive, cette plateforme pour faire réparer vos tablettes, vos smartphones et vos consoles. À très bientôt.
À bientôt.
Tout de suite, le top 3 du web.
BFM Business, 60 minutes business, le top 3 du web.
Le top 3 du web, et on commence, Frédéric Bianchi, par une info, BFM Business, cette boulette du gouvernement sur les plafonds des prix de l'électricité.
Exactement, oui, ce sont les incinérateurs qui sont vent debout contre le gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un amendement qui a été passé pour plafonner les prix de revente de l'électricité produite par les incinérateurs. Il faut savoir qu'en France, il y a 100 incinérateurs qui produisent avec la chaleur de l'électricité, qui revendent sur les marchés. Or, le gouvernement, pour éviter les surprofits, comme on l'a vu avec l'éolien et le solaire, a décidé de plafonner à 60 euros le mégawattheure cette revente du prix. Évidemment, 60 euros le mégawattheure, ça ne suffit pas à équilibrer les comptes. Les incinérateurs perdent de l'argent et réclament donc au gouvernement un rehaussement de ce plafond pour être rentable. Et c'est un sujet particulièrement tendu parce que les recettes de ces incinérateurs permettent aussi de financer les collectivités locales qui sont, on le sait, prises à la gorge avec la hausse des factures. Donc voilà, je pense, en tout cas, ce que disent les grandes entreprises du secteur, c'est que le gouvernement va revoir sa copie, mais ils ont eu très peur.
Jean-Marc ?
Non, je vois la capacité d'influence des collectivités locales dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que nos auditeurs sont passionnés par ce sujet. Oui. Ils vont voir comment les collectivités locales vont s'en sortir. Oui. Elles vont s'en sortir en faisant des économies. Quant aux incinérateurs, je ne savais pas qu'il y en avait autant.
Une centaine en France et qui produisent 1% de l'électricité nationale, c'est pareil.
Effectivement. Pas mal, ouais. On continue avec un article sur les emballages jetables qui vont être interdits dans les fast-foods dès le 1er janvier prochain.
Exactement, le 1er janvier prochain, quand vous irez au McDonald's, il n'y aura plus de boîtes en carton, de gobelets en papier. Tout ça, ce sera interdit. Donc, la grande distribution, le secteur du fast-food doit prévoir des couverts, des gobelets réutilisables. Il va falloir laver tout ça. Alors, on s'est un peu renseigné pour savoir qui était prêt aujourd'hui pour le 1er janvier. Alors McDonald's, Burger King sont prêts, Starbucks aussi, en revanche Domino's Pizza, qui propose des pizzas dans des restaurants où on peut manger dans les restaurants, pas que de la livraison, eh bien ne serait pas prêt. Il lui faudra quelques mois en plus. On rappelle que cette mesure est tirée de la loi de 2020 sur la loi anti-gaspillage, les déchets des fast-food représentent 180 000 tonnes par an, c'est quand même pas rien.
Et enfin, cette excellente nouvelle. Et vous allez voir, on est à la limite de la Madeleine de Proust, Jean-Marc. Une marque de chocolat qui fait son retour, Jean-Marc.
Merveille du monde. Est-ce
Merveille
que
du
vous
monde,
vous rappelez de cette marque star des années 80, tous les enfants
venaient. Le meilleur chocolat du monde.
Oui, mais alors, enfin, je ne veux pas faire de la publicité pour une autre marque, mais chez moi, on était élevés par Poulain, maison de Blois.
Ah bah voilà.
Alors, Poulain existe encore, mais Merveille du monde se relance, vous rappelez ces chocolats avec des figures d'animaux dessus, des lions.
Le lion.
Voilà. La marque a été rachetée par une petite société marseillaise de confiserie. Elle appartenait auparavant à Nestlé et elle va être lancée en mars 2023. Donc en mars 2023, Merveille du Monde fait son retour dans les rayons de nos supermarchés.
C'est la meilleure nouvelle de la semaine.
Oui, on finit en beauté. Là.
Exactement. Merci Frédéric Bianchi. Merci beaucoup. Jean-Marc, on se retrouve lundi. Très bon week-end. Dans un instant, BFM avec vous.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collo.
À la une, opération réconciliation à Berlin aujourd'hui. Elisabeth Borne et Olaf Scholz se retrouvent pour donner un nouvel élan à leur tandem et faire oublier leur dissonance sur la défense et l'énergie. Il pourrait notamment marquer une solidarité accrue en matière de livraison réciproque de gaz et d'électricité. L'Allemagne qui connaît par ailleurs une croissance plus élevée que prévue au troisième trimestre, plus 0,4% selon l'Institut de statistiques Destatis, contre 0,3% initialement anticipé. Sur un an, le PIB croît de 1,3% malgré la crise énergétique et l'inflation. La Banque européenne d'investissement accorde un financement de 200 millions d'euros à OVH Cloud. Ce prêt est le premier accordé par la BEI à un spécialiste du cloud. Il vise à soutenir l'expansion européenne du groupe, présenté comme une alternative aux géants américains. En Chine, les suites des perturbations chez Foxconn. La production d'iPhone devrait chuter d'au moins 30% en novembre. Après les manifestations et violences qui ont éclaté contre la politique zéro Covid, impossible que la production reprenne complètement d'ici à la fin du mois. Plus de 20 000 salariés ont quitté l'usine selon Reuters. Et toujours en Chine, la Banque centrale annonce une réduction d'un quart de point du taux de réserve obligatoire des banques. Une mesure pour favoriser le crédit et soutenir l'économie. Cette baisse devrait libérer 67 milliards d'euros de liquidités. Dans l'actualité des entreprises, le conseil d'administration du groupement Les Mousquetaires a choisi un nouveau président. Thierry Cotillard, l'ancien président d'Intermarché, devrait succéder à Didier Duhaupan. Une candidature qui doit encore être confirmé en Assemblée Générale le 24 janvier. Et puis Inka Group, la holding qui regroupe les magasins IKEA, annonce une chute de son bénéfice net annuel. Il est divisé par 5 à 287 millions d'euros. Des résultats en partie plombés par le retrait du groupe en Russie. Nos rendez-vous du jour aujourd'hui sur BFM Business. Ce soir, Fred Mazzella reçoit Ty Chris dans Les Pionniers. Rendez-vous donc à 19h sur BFM Business.
Merci beaucoup Nathan Cocampo. On va jeter peut-être pas. Bon d'accord. Un œil sur le CAC 40. Si, voilà, il est là. Il est dans le vert, mais enfin, c'est très indécis à la mi-journée à 6721 points. Allez, Tout de suite, c'est BFM avec vous.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
Ça peut concerner tout le monde, ça, Lorraine Goumaud. On va parler d'erreurs de com. Comment je me rattrape en cas d'erreur de com, Lorraine ?
Eh bien, on va poser la question à notre expert du jour. Il s'agit de Samuel Botton. Bonjour, Samuel.
Bonjour, Lorraine. Bonjour, Sandra.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Step Conseil et expert en communication. Avec vous, on va revenir sur quelques auditeurs, sur quelques réactions d'auditeurs, d'auditrices, sur les communications ratées, on peut le dire, sur les gros salaires. Et puis, vous voyez, on va parler de plein de choses en partant de ça. Je vous lis cette question de Chris. Christina, qui nous a écrit à l'adresse avec vous à bfmbusiness.fr. Elle nous parle du cas de Patrick Pouyanné. Pardon, on est obligé de le prendre
en exemple.
Elle nous écrit, les salariés de Total ont fait grève après avoir vu le salaire de leur PDG, Patrick Pouyanné, augmenter de 52%, alors que leur propre salaire stagne. Comment Total aurait pu mieux gérer la communication et le timing, point d'exclamation, de cette annonce? Qu'est-ce que l'expert que vous êtes peut lui répondre?
Alors, je vais prendre le problème dans un autre sens, et à la racine, c'est-à-dire la divulgation du salaire de Patrick Pouyanné sur les réseaux sociaux, de ce qui semble être à sa propre initiative, et c'est là que ça pose un problème. On est dans une communication qui est hors sol, mais surtout qui ne devrait pas exister. C'est-à-dire, c'est une donnée qui est publique. Un enfant de 15 ans entraînant 10 minutes sur Internet aurait pu trouver cette info, elle aurait pu être divulguée par un journaliste, il aurait pu en avoir des articles, ça n'aurait pas eu le même écho médiatique. Mmh. À partir du moment où vous avez le PDG d'une des entreprises françaises les plus importantes et qui est dans la vie de tous les Français au quotidien et encore plus à cette période-là, ça devient un peu plus complexe. Et on est hors sol parce qu'il est inaudible d'entendre que ben, finalement on est revenu à un salaire d'avant-crise mais qu'on a fait un effort de 50% quand on est sur des sommes qui ne concernent pas la majorité des Français.
Vous dites que la transparence ne fait pas tout.
La transparence ne fait pas tout. Non, c'est un peu plus complexe que ça. La transparence, elle était là.
Oui.
Elle était déjà là. La question, c'est d'aller agiter quelque chose sous le nez d'une population qui, elle, ne peut pas comprendre et ne peut pas être réceptive à ça. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut prendre ce qu'est le SMIC en France aujourd'hui, on peut prendre ce qu'est le salaire moyen en France aujourd'hui. À 60 millions de Français, vous n'allez pas faire entendre que finalement, bah, j'ai fait un effort pendant la crise, j'ai gagné 3 millions et demi seulement. Et puis là, je reviens à 6 parce que mon conseil d'administration a décidé.
Ouais.
C'est peut-être le cas, je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. Par contre, c'était une donnée qui était publique et il n'y avait pas besoin d'aller agiter ce drapeau sur les réseaux sociaux.
Si Total avait été votre client, vous auriez dit à son PDG, ne communiquez pas.
C'est pas ne communique pas, c'est tu n'as pas besoin de communiquer. C'est une donnée publique, c'est de la donnée réglementaire pour des entreprises de cette typologie. Tu n'as pas besoin, il n'y avait pas besoin d'aller autant à l'avant de cette problématique. Il valait mieux laisser passer. Je suppose qu'à un moment ou à un autre, la presse aurait traité de ce sujet de la même manière qu'elle avait traité du salaire des personnes qui étaient en grève à ce moment-là, donc qui étaient estimées entre 4 et 5 000 euros, ce qui a pu causer un tollé à ce moment-là. Mais là encore, la question n'est pas là. Donc, c'était pas nécessaire d'aller sur cette problématique-là. Il fallait prendre un peu de recul. C'est d'ailleurs ce qu'il faut faire quand on fait une bêtise. On prend du recul, le temps de la réflexion. Et bien d'autres choses encore.
Ce qu'empêche parfois les réseaux sociaux, malheureusement. On a cette question aussi, Jean-Pierre, qui dit Kylian Mbappé, lui, gagne 135 millions d'euros par an. Pourquoi les révélations sur le salaire de Kylian ont semblé moins choquées que celles autour du salaire annuel du PDG de Total? Ça veut dire qu'effectivement, on n'est pas égaux dans la.
Elles sont arrivées dans un contexte radicalement différent.
Oui.
D'abord, au moment où le salaire de Kylian Mbappé est révélé, il n'est pas révélé par lui, il est révélé par la presse. Ça intervient aussi au milieu de plusieurs révélations. C'est-à-dire, il y a eu à l'époque, encore une fois, je ne suis pas là pour dire c'est vrai, c'est pas vrai, mais les révélations étaient le PSG, par l'intermédiaire d'un de ses directeurs généraux de l'époque, avait lancé une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux via des agences. Il y avait le service d'ordre et de sécurité du PSG qui était aussi au milieu de ça à un moment donné. Et au milieu, vous avez les conditions du contrat d'Mbappé.
Oui.
Bon, déjà, Mbappé, il est salarié du Paris Saint-Germain. Il fait sa négociation de contrat comme il doit la faire. Ça ne regarde que lui et son employeur. Mais surtout, il n'est pas allé dire, voilà, je gagne tant, voilà ce qu'est mon salaire. Il l'a fait dans une discrétion toute relative. Après, on peut être d'accord ou pas sur le salaire des footballeurs. Ça, c'est encore autre chose. Mais on n'est pas du tout dans la même configuration. Par contre, le point commun, c'est que Total comme Kylian Mbappé font partie intégrante de la vie des Français aujourd'hui et au quotidien.
C'est vrai ce que vous dites. On se permet d'avoir un avis parce que finalement, Total, ça fait partie du patrimoine. Et le PSG, bon, pas pour les pas parisiens, on va dire, mais en tout cas, Kylian Mbappé, en tant que joueur de l'équipe de France, il fait partie de notre patrimoine, donc on a le droit d'avoir un avis. Néanmoins, la différence, c'est que Mbappé, c'est un salarié.
Et donc, quelque part, la divulgation de son salaire...
Mais il y avait à ce moment-là, dans la presse, plusieurs théories qui émergeaient, comme quoi ça pouvait être aussi une cause de rupture de contrat, que c'était sorti d'un certain cadre entre l'employeur et son salarié, que ça n'avait pas lieu d'être. Ce qui est vrai, après, on est dans le domaine public, on est sur des personnalités publiques. L'info est sortie, elle est là. Je pense qu'il n'a pas répondu justement aux interrogations qu'il avait pu avoir sur ces sujets-là, et il a pris un peu de la hauteur sur la question. C'est ce qu'il fallait faire. De la même manière que quand Patrick Pouyanné dévoile son salaire, il comprend qu'il fait une erreur, et derrière, on a quand même une cure médiatique de 2-3 semaines jusqu'à un retour pour une grande interview.
Alors, si on prend un pas de recul par rapport à ces deux divulgations de salaire, qu'est-ce que vous pouvez partager comme conseil, peut-être les erreurs à ne pas faire ou les trois conseils que tout le monde doit avoir en tête quand on communique?
Dans une situation sensible ou de crise, il est toujours important de prendre le temps de la réflexion dans les premières minutes. Ça peut vous éviter des erreurs considérables par la suite. C'est un gain de temps, c'est un gain aussi d'énergie. Ça permet d'appréhender le problème différemment. Donc prendre le temps, remettre les choses en perspective. À un moment, se rendre compte qu'on a fait une erreur, donc l'assumer et s'excuser. Sur le format des excuses, je pense qu'il faut rester dans la simplicité, à l'image de ce que peut être l'entreprise concernée au quotidien. Dans le cas, encore une fois, de Patrick Pouyanné, c'était une interview accordée à Rutel Krief sur laquelle la question a été reposée, ce à quoi il concède que c'est une erreur, mais on n'est pas totalement dans l'excuse non plus. C'était aussi de dire, il y avait une justification, de dire voilà, ce n'est pas de mon fait, j'ai fait une erreur de communiquer, mais encore une fois, ce salaire, c'est pas ma faute. Encore une fois, la question n'est pas ce qu'il gagne, ce qu'il ne gagne pas, c'est comment cette info a pu être brandie dans l'opinion publique.
Bon, en parlant de communication, vous savez, c'est vendredi, on est avec un de nos confrères de chez LinkedIn. On va revenir sur une affaire qui a été beaucoup, beaucoup médiatisée. C'est celle d'un salarié qui a été viré parce qu'il n'était pas assez fun. Vous en avez sans doute entendu parler. Bonjour Mehdi Randani.
Bonjour.
Oui, merci d'être avec nous. On rappelle que vous êtes journaliste chez LinkedIn Actualité. Alors, vous avez sondé Internet. Dites-nous comment on peut analyser.
Cette histoire, hein, l'expérience vécue par un consultant qui refusait en fait de participer aux pots et aux autres événements festifs dans son entreprise. Alors, le cas est un petit peu extrême, hein, mais alors faut-il être fun pour réussir dans le monde professionnel? On a posé la question aux membres de LinkedIn cette semaine. Alors le résultat, c'est oui hein, pour 69% des répondants. Dalila, qui est coach, explique par exemple que travailler en équipe nécessite par nature de faire l'effort d'être fun. Cela permet de créer l'ambiance qui génère de la productivité, nous dit-elle. Quant au moment festif, hein, pour revenir au cas plus précis que vous avez expliqué en introduction, pour beaucoup, ils sont également incontournables, car ils créent de la cohésion entre les salariés. Avoir de bonnes relations avec ses collègues est primordial. Je pense que les entretenir fait partie du travail, souligne Eric, qui est ingénieur.
Comme quoi, on peut être ingénieur, FN.
Absolument. En revanche, cette pression un petit peu du fun et des moments festifs entre collègues, certains la regrettent hein, parmi les membres. C'est par exemple le cas de Manuel, qui est étudiant. Malheureusement, nous dit-il, il me semble que sur son poste, être compétent et rigoureux est une condition nécessaire mais non suffisante. Si on travaille bien mais qu'on reste dans son coin, les perspectives s'amenuisent. Même son cloche pour Baptiste, qui travaille dans le graphisme, lui nous dit qu'il faut forcément participer aux événements, soirées, team building, quitte à faire passer tout ça avant sa vie privée. C'est triste, mais un salarié pas très bon, mais dynamique et extraverti sera selon lui mieux considéré qu'un autre, meilleur dans son boulot, mais réservé.
Alors pour autant, être fun, c'est pas toujours un atout. Ça peut parfois se retourner contre nous.
Effectivement, c'est ce que nous dit Marie-Jeanne, qui est ingénieure. Elle constate que faire preuve d'humour, apprécier les ambiances potaches au travail, c'est parfois aussi mal vu, voire carrément handicapant pour une promotion. Quand on n'est pas ennuyeux, on n'est pas sérieux, déplore-t-elle. En fait, tout est une question de culture d'entreprise, hein, c'est ce que résume Diane, assistante travaux. Elle explique que si vous n'êtes pas en adéquation avec l'esprit de votre société, cela peut en effet rendre compliqué le travail d'équipe.
Merci beaucoup, Mehdi. Samuel, une réaction à cette affaire qui a été très médiatisée, effectivement.
Le problème, c'est que je suis un adepte de l'efficacité et du travail, pas forcément...
Du fun obligatoire.
Être soi-même en entreprise, essayer forcément la cohésion d'équipe, c'est important. Et parfois, aller faire un effort et se forcer à être... Forcer un peu sa nature. Mais après, effectivement, c'était une affaire assez rigolote quand on la voit de notre point de vue, oui. Mais qui ne doit pas l'être du point de vue du salarié et aujourd'hui de l'entreprise. entreprise.
Mais oui, en termes de marque employeur, on peut imaginer quand même que ce cabinet de conseil, il est un peu affecté quand même par, par l'écho de cette affaire, même si elle est vieille, hein, elle remonte à quelques années maintenant.
2015.
Voilà, surtout post-Covid, on a envie que l'entreprise soit aussi un lieu de convivialité.
C'est une question que les cabinets de conseil, peut-être dans leur ensemble, doivent se poser. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait ces dernières années grâce à différentes initiatives sur Balance ton agence, balance ta start-up, balance ton cabinet de conseil également qui avait été créé à un moment. Donc c'est des prises de conscience qu'il faut avoir pour travailler là-dessus, tout simplement.
Très rapidement, à nouveau sur la communication, Elon Musk communique énormément à chaque action. Il communique sur Twitter, c'est ce qu'il va faire au point de vue managérial, au point de vue stratégie. Est-ce que trop de communication nuit à la communication?
Un cas très particulier, Elon Musk n'est plus un businessman, on est rentré dans autre chose.
Oui.
Je pense que lui revendique un statut d'icône. Peut-être d'internet, peut-être des médias ou autre, mais je pense que lui peut se le permettre entre guillemets dans la mesure où finalement il est tributaire que de lui-même. On l'a vu que sa parole pouvait avoir un puissant pouvoir, notamment sur le marché des cryptos à certains moments. Je disais qu'il parle pour qu'une monnaie monte ou une monnaie descende. Je pense que là on est vraiment en dehors du cadre et il appartient finalement à cette caste d'une dizaine de dirigeants mondiaux qui peuvent se permettre absolument tout. Ça suscitera peut-être des critiques, mais finalement, ils peuvent se permettre de faire en sorte que ça ne les atteigne pas.
Mmh. Voilà. Il a aussi son propre réseau social maintenant, c'est facile.
C'est vrai. Oui, mais qu'on commence à quitter massivement, de ce que j'ai compris.
Merci beaucoup, Samuel Botton, pour cette expertise. BFM avec vous continue dans un instant. On recrute.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
BFM avec vous. On recrute comme promis votre première recruteuse, Lorraine, c'est Laura Pisani-Ferry.
Oui, le job de Laura et de son équipe, c'est de rendre les vélos électriques bien un petit peu plus intelligents, un petit peu plus connectés. Décrivez-nous quelle est technologiquement votre solution.
Alors notre solution en fait a une partie hardware, donc c'est soit un guidon, soit un boîtier qui est intégré dans le vélo, qui communique avec la batterie, avec le moteur et qui a une antenne qui permet aussi de suivre le mouvement du vélo et qui est connecté donc au cloud, ce qui nous permet de proposer tout un panel de solutions et de services digitaux. Donc nous, nos services, ils sont à l'intention des acteurs du vélo, donc c'est une solution B2B qui permet notamment de gérer des flottes de vélos, de proposer une application mobile à ses clients, aux utilisateurs du vélo, qui permet de lutter contre le vol, etc., qui permet pas mal de choses.
Une solution 100% made in France, d'ailleurs.
Absolument.
Hardware comme software.
Oui, donc tout est conçu à Nantes. Toute la partie software est conçue et développée à Nantes. Pour ce qui est la partie hardware, il s'agit de prototyper et de designer les produits, encore une fois, à Nantes. Et pour l'industrialisation, on travaille avec des partenaires qui sont dans la région nantaise et en Europe, au Portugal.
Bon, vous êtes une entreprise pas toute jeune, somme toute 2016. Vous avez peut-être déjà traversé le couloir de la mort des startups. Vous êtes 40-45 et vous recherchez 7 personnes. Qui sont les postes qui sont urgents à pourvoir pour continuer à grossir?
Absolument. Donc on recrute pour 5 postes à Nantes et pour 2 postes à l'étranger, puisque notre ambition est de devenir le leader européen de solutions de connectivité pour les vélos électriques d'ici à 2024. Donc on a un grand focus sur l'international. Par rapport à ces 5 postes en France, il s'agit notamment de postes sur l'équipe R&D, donc pour participer à la création et au développement de nos produits. Donc c'est un poste d'ingénieur logiciel embarqué, de DevOps et de testeurs. Ensuite, on a des profils commerciaux, donc un à Nantes sur du développement commercial, mais qui est vraiment tourné vers l'international et notamment l'Europe. Et un poste en Allemagne, en Italie ou au Portugal pour gérer cette région d'Europe du Sud. On recherche quelqu'un en communication en Allemagne pour travailler vraiment en binôme avec notre responsable commercial sur place. Et enfin, on recherche quelqu'un qui s'occupe de la qualité Visserie, donc pour travailler avec nos partenaires industriels sur la qualité vraiment de nos produits. Du hardware.
Une part de télétravail?
Oui, on fait 2 jours par semaine de télétravail.
Un mot juste pour parler de Nantes. On a déjà reçu pas mal de personnes, d'entrepreneurs, d'entrepreneuses dans le monde du cycle à Nantes. Qu'est-ce qui se passe à Nantes?
Il y a énormément de dynamisme. Déjà, on est sur un marché qui est vraiment très dynamique, qui est dans l'air du temps, qui répond aux attentes de la société et des individus. Et en effet, à Nantes, il y a tout un écosystème qui est très intéressant autour du vélo, ce qui est plutôt positif pour nous, les acteurs locaux. Et il y a d'ailleurs une filière qui s'est créée, qui s'appelle Cigo, et dont notre CEO fait partie. il était à l'initiative de ce mouvement et qui permet en effet de vraiment renforcer cette filière sur la région Pays de la Loire.
Bon, ouais. Comment on postule, Lorraine ?
Eh bien, ça se passe à l'adresse de Laura. Vous voyez, c'est une DRH qui est très proche de ses futurs recrutés. C'est laura@velco.fr. Puis, bien sûr, sur le site de Velco, et puis aussi sur Welcome to the Jungle.
Notre deuxième recruteur, Lorraine, est Antoine Vu.
Avec vous, Antoine, on va parler de réalité augmentée, d'expérience immersive sur les réseaux sociaux. Alors, pour ceux qui nous écoutent en podcast, on les salue, et à la radio, décrivez-nous de manière très simple ce que vous et votre équipe vous faites.
Alors, la réalité augmentée, dans des termes techniques, c'est le procédé qui consiste à superposer un élément virtuel sur votre environnement réel. Aujourd'hui, vous connaissez le terme plus commun qui est le filtre en réalité augmentée, le filtre Snapchat. Faut savoir que c'est pas uniquement sur Snapchat qu'il est propulsé, mais sur différents supports comme Instagram et TikTok. Et en fait, nous, on va accompagner les marques, les annonceurs comme, je sais pas, Lacoste, Dior, Cartier, à créer des campagnes digitales en empruntant ce format qui est plus immersif, comme vous l'avez dit, et plus engageant.
L'idée derrière, c'est quoi ? C'est augmenter le nombre d'achats, augmenter le nombre de vues. Concrètement, les indicateurs de réussite, c'est quoi derrière ?
C'est effectivement l'acte d'achat. En fait, on emprunte ce format parce qu'il est, comment dire, plus, je l'ai dit tout à l'heure, engageant. Moi, j'aime bien faire le parallèle avec les moyens mémotechniques. Si je vous donne une information à l'écrit ou en image, vous allez la retenir. Si j'y mets du son, vous allez encore mieux la retenir. Mais si je vous permets de vivre cette information, évidemment, vous allez la retenir. Et si je vous permets de voir un sac ou une paire de chaussures directement sur vos pieds ou un chapeau, évidemment, vous allez avoir plus envie de l'avoir chez vous.
Donc, vous êtes une soixantaine de personnes actuellement et vous recrutez 5 postes. Quel type de poste ?
Alors oui, effectivement, on a une dizaine de postes qui sont ouverts sur l'année prochaine, mais il y a 5 principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle chez nous un exécutif producteur qui rejoindrait l'équipe sales. Donc, son travail, c'est d'accompagner les clients et les aider à exprimer leurs besoins et de, avec eux, craquer les idées créatives pour pouvoir lancer justement ces productions et ces campagnes. Le deuxième profil, c'est le responsable informatique, l'IT, cette fois-ci à temps plein, parce qu'on en a un à temps partagé, mais on aimerait en avoir un permanent. Le troisième profil, c'est le designer interactif, designer et art. Donc ça, c'est un poste qui a été créé chez nous, où on a hybridé en fait des designers qui proviennent de milieux plus classiques comme le web ou le jeu, exactement, pour lesquels qu'on a spécialisé dans le domaine de la réalité augmentée. Le quatrième profil, c'est le creative developer. Donc on a fait la même chose, on a hybridé des développeurs qui viennent du web ou du jeu vidéo et on les a spécialisés aux contraintes de la réalité augmentée. Et le dernier, c'est l'infographiste 3D, donc celui qui va modéliser le dragon, la table, l'être humain, la paire de chaussures.
Vous êtes un peu spécialiste dans les OGM en fait, vous allez recruter des gens dans des secteurs connexes et puis vous les mettez à votre sauce.
À peu près, voilà.
Pour les plus jeunes qui nous écoutent ou ceux qui voudraient changer de carrière, comment on devient spécialiste de la réalité augmentée aujourd'hui, quelles sont vos sources de candidats fraîchement formés?
Alors déjà, faut savoir que les profils qui décident de faire de la réalité augmentée sont souvent des profils très curieux, parce que ça intègre de la nouvelle technologie, c'est à la fois créatif et technique. Donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça les développeurs, en l'occurrence des créatifs développeurs. Donc les profils sont plutôt des personnes férues de technologie, capables d'utiliser différents logiciels et qui n'ont pas peur d'en apprendre de nouveaux, comme ceux qui sont portés par les plateformes sociales comme Spark AR pour Meta ou Lens Studio pour Snapchat.
Il y a déjà une formation ou une école aujourd'hui qui pourvoit aux besoins des entreprises comme les vôtres?
Pas encore, malheureusement, mais on a lancé, nous, en interne, ce qu'on appelle l'XR Academy, où on forme les nouveaux arrivants à ces métiers, et on discute avec différentes écoles pour pouvoir dispenser, justement, des formations, pour l'instant courtes, mais on espère qu'elles seront beaucoup plus longues dans l'avenir.
Comment on postule, Lorraine ?
Ça se passe directement à l'adresse que vous voyez à l'écran, pour ceux qui nous regardent en direct ou en vidéo à la demande, c'est contact@atomicdigital.design. Vous allez aussi retrouver l'ensemble des offres qu'on a évoquées, vous avez entendu 5 à court terme, mais 10 sur le moyen terme, LinkedIn plus le site d'Atomic Digital Design. Et puis on précise que vous êtes basé à Paris, mais bon, comme toutes les entreprises dans la création, télétravail aussi possible.
Oui, comme Laura, 2 jours par semaine, mais on a autorisé, on a lancé un programme qui s'appelle le World from World, où 2 semaines dans l'année, nos collaborateurs peuvent travailler n'importe où dans le monde. étant donné qu'on a beaucoup de personnes de l'international, c'est pratique pour
elles. C'est le travail depuis l'étranger.
On vous renvoie à notre émission de mardi, je crois. On a traité ce sujet du télétravail depuis l'étranger avec sous l'angle juridique, droit du travail. Vous pouvez vous y référer sur notre site de vidéo à la demande.
Merci à tous les deux d'être venus nous voir. Lundi, on parlera des déclarations d'accidents de travail, Laurette.
Mais oui, figurez-vous que du point de vue du patron et des salariés, eh bien, ces accidents de travail se multiplient depuis quelques mois et donc on répondra à vos questions sur ce vaste sujet.
Cette émission est à retrouver en podcast et en replay sur notre appli, sur notre site. Passez tous un très bon week-end et à très vite sur BFM Business.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.